Chapitre 10. Destiné à dissiper tous les doutes qui pourraient exister sur le désintéressement de M. Jingle. Il y a dans Londres plusieurs vieilles auberges qui servaient de quartier général aux coches les plus célèbres, dans le temps où les coches accomplissaient leur voyage d'une manière grave et solennelle. Mais ces auberges ont dégénéré peu à peu et n'abritent plus guère que des voitures de roulage. Le lecteur chercherait en vain quelqu'une de ces anciennes hôtelleries parmi les Bouches d'or, les Croix d'or, les Taureaux d'or qui lèvent leurs fronts superbes dans les belles rues de Londres. S'il veut en étudier les restes, il fera bien de diriger ses pas vers les quartiers les plus obscurs de la ville et là, dans quelques coins retirés, il en trouvera un certain nombre qui restent encore debout avec une sombre obstination au milieu des innovations modernes. Dans le Beaureuf, surtout, il reste encore une demi-douzaine de ces anciennes maisons qui ont conservé sans changement leur singulière physionomie et qui ont également échappé à la rage des améliorations publiques et des spéculations privées. Ce sont d'étranges bâtiments avec des galeries, des corridors, des escaliers sans nombre et assez antiques, assez vastes pour fournir des matériaux à mille histoires de revenants, si nous sommes jamais réduits à la lamentable nécessité d'en inventer quelques-unes, et si le monde dure assez longtemps pour épuiser les innombrables et véridiques légendes qui se rattachent au vieux port de Londres et à ses environs. Dans la cour du Blanc-Serre, l'une des plus célèbres entre ces auberges gothiques, et de bonne heure dans la matinée qui suivit les événements funestes racontés dans le précédent chapitre, un homme s'occupait activement à enlever la boue d'une paire de bottes. Cet homme avait un gilet rayé, orné de manches de calicot noir et de boutons de verre bleu, une culotte de gros drap et des guêtres. Autour de son cou s'enroulait négligemment un mouchoir d'un rouge éclatant. Un vieux chapeau blanc était posé sans façon sur le côté gauche de sa tête. Il y avait devant ce personnage deux rangées de bottes, les unes propres, les autres crottées, et à chaque addition qu'il faisait aux bottes nettoyées, il s'arrêtait un instant pour contempler son ouvrage avec une satisfaction évidente. La cour n'offrait aucun indice de ce tapage, de ce mouvement qui caractérise les hôtels où s'arrêtent les diligences. Deux ou trois cabriolets, deux ou trois chaises de poste s'abritaient sous différents petits toits en appentis. Trois ou quatre voitures de roulage, chargées d'une montagne de marchandises aussi élevée que le second étage d'une maison ordinaire, restaient immobiles à l'ombre d'un énorme hangar suspendu sur un des côtés de la cour, tandis qu'un autre camion, qui probablement devait commencer son voyage dans la matinée, était tiré dans la partie découverte. Les bâtiments qui bordaient deux côtés du parallélogramme étaient garnis d'une double rangée de galeries, ornés d'énormes garde-fous en bois et sur lesquels deux files de chambres à coucher venaient s'ouvrir. Deux lignes de sonnettes qui leur correspondaient se dandinaient au-dessus de la porte d'entrée, recouvertes par un petit toit en ardoise. Enfin, de temps en temps, le piétinement pesant d'un cheval de charge ou le cliquetis d'une chaîne annonçaient à ceux qui s'en inquiétaient que les écuries étaient au bout de la cour. Si nous ajoutons à ce tableau quelques hommes en blouse, dormant sur des ballots, quelques sacs de laine et autres articles de ce genre répandus sur des monceaux de foin, nous aurons décrit, autant qu'il est nécessaire, l'apparence que présentait, dans la matinée dont il s'agit, la cour du Blanc-Serre, grande rue du Beaureuf. Le carillon d'une des sonnettes fut suivi de l'apparition d'une servante coquette dans l'une des galeries du second étage. Elle frappa à l'une des portes et, ayant reçu une requête de l'intérieur, elle cria par-dessus la balustrade. « Sam !»« Voilà !» répliqua l'homme au chapeau blanc. « Le 22 demande ses bottes sur le champ. »« Eh bien, demandez-y s'il veut les avoir de suite ou bien attendre qu'on les lui porte cirées. » « Allons, Sam, pas de bêtises !» reprit la jeune fille d'un air engageant. Le gentleman a besoin de ses bottes sur le champ. Parole d'honneur, vous êtes bonne là, repartit le décrotteur. Regardez-moi un peu ces bottes. 11 paires de bottes et un soulier qui appartient au numéro 6 avec une jambe de bois. Les bottes doivent être livrées à 8h30 et le soulier à 9. Qu'est-ce que c'est que le numéro 22 pour monter sur le dos à tous les autres ? Non, non, chacun son tour, comme disait Jack Ketch à des particuliers qu'il avait à pendre. Fâché de vous faire attendre, monsieur, mais je ferai votre affaire tout à l'heure. Parlant ainsi, l'homme au chapeau blanc se remit à travailler sur une botte à revers avec une vitesse accélérée. On entendit un autre carillon et la vieille aubergiste du blanc cerf parut d'un air affairé dans la galerie opposée. « Sam ! » cria l'hôtesse. « Où est-il, ce paresseux, ce fainéant, ce... Oh, vous voilà donc, Sam ! Pourquoi ne répondiez-vous pas ?»« Ce serait-il gentil de répondre avant que vous eussiez fini de parler ?» répliqua Sam un peu brusquement. « Tenez, cirez ces souliers pour le numéro 17 sur le champ et portez-les à la salle à manger particulière numéro 5 au rez-de-chaussée. » Ayant ainsi parlé, l'aubergiste jeta dans la cour des souliers de femme et s'éloigna en trottinant. « Numéro 5 !» dit Sam en ramassant les souliers et tirant un morceau de craie de sa poche pour noter leur destination sous la semelle. « Souliers de femme et salle à manger particulière, je parie bien qu'elle n'est pas venue en charrette, celle-là. »«
Elle est venue de bonne heure ce matin !» cria la servante qui était encore appuyée sur la balustrade de la galerie. « Dans un fiacre, avec un gentleman, et c'est lui qui demande ses bottes que vous feriez mieux de lui donner. Voilà l'histoire. »
« Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça d'abord ? » s'écria Sam avec une grande indignation, en choisissant les bottes en question parmi toutes celles qui étaient devant lui. « Je croyais que c'était une de nos pratiques à trois pence. Salle à manger particulière, et une lady encore. S'il y a dans sa peau un peu du véritable gentleman, il me vaudra au moins un shilling par jour, sans compter les commissions. » Stimulé par cette réflexion consolante, M. Samuel brossa avec tant de bonne volonté qu'au bout de peu de minutes, il avait donné aux souliers et aux bottes un luisant qui aurait rempli de jalousie l'âme de l'aimable M. Warren. Car, au blanc cerf, on employait le cirage de messieurs Day et Martin. Arrivé à la porte du numéro 5, Sam frappa respectueusement. « Entrez !» répondit une voix d'homme. Sam fit son plus beau salut et parut en présence d'une dame et d'un gentleman qui étaient en train de déjeuner. Ayant officieusement déposé les bottes de droite et de gauche aux pieds respectifs du gentleman et les souliers de droite et de gauche à ceux de la dame, il se retira vers la porte.
« Garçon !» dit le gentleman.
« Monsieur ?» répondit Sam en fermant la porte et tenant la main sur le bouton de la serrure.
« Connaissez-vous, comment cela s'appelle-t-il, Doctor's Commons ?»«
Oui, monsieur. »«
Où est-ce ?»«
Paul's Churchyard, monsieur. Une arcade basse, un libraire d'un côté, un hôtel de l'autre, et deux commissionnaires qui se chargent d'obtenir des permis de mariage pour ceux qui en ont besoin. »«
Des permis de mariage ?» répéta le gentleman.
« Oui, des permis de mariage, » répéta Sam. Deux individus en tablier blanc touchent leur chapeau quand vous entrez. « Un permis, monsieur, un permis ?»«
Drôle de gens, et leurs maîtres aussi. Ils ne valent pas mieux que les procureurs que consultent les plaideurs de la cour d'assises. »
« Et que font-ils ? » demanda le gentleman.
« Ce qu'ils font, ils vous mettent dedans, monsieur. Et ce n'est pas tout. Ils fourrent dans la tête des vieilles gens des choses comme ils n'en auraient jamais rêvé. »
« Mon père, monsieur, était un cocher veuf, monsieur, et assez gros pour être capable de tout. Étonnamment gros, mon père. Sa chère épouse décède et lui laisse 400 guinées. Bien, il s'en va au Commons pour voir l'homme de loi et toucher le quibus. Fameuse tournure, mon père. Bottes à revers, bouquet à la boutonnière, chapeau à grand bord, châle vert, gentleman fini. » Il passe sous l'arcade, pensant où il placerait son argent. Bon, arrive le commissionnaire. Il touche son chapeau.
Un permis, monsieur ?
Quoi que c'est ? Dit mon père.
Permis de mariage, dit-il.
Dieu me donne, dit mon père, je n'y avais jamais pensé.
J'imagine qu'il vous en faut un, monsieur, dit le commissionnaire.
Mon père s'arrête et réfléchit un brin.
Non, dit-il, le diable m'emporte, je suis trop vieux. D'ailleurs, je suis beaucoup trop gros, dit-il.
Allons donc, monsieur, dit l'autre.
Vous croyez ? Dit mon père.
J'en suis sûr, qu'il dit. Nous avons marié un gentleman deux fois votre corporance lundi passé.
Vrai ? Dit mon père.
Bien vrai, dit l'autre. Vous n'êtes qu'un gringalet au pré.
Par ici, monsieur, par ici.
Et ne voilà-t-il pas mon père qui marche après lui comme un singe apprivoisé derrière un orgue dans un petit bureau noir où ce qu'il y avait un gaillard avec des papiers crasseux et des boîtes d'étain qui travaillait à faire croire qu'il était bien occupé.
« Asseyez-vous, monsieur, pendant que je vais faire le certificat, » dit l'homme de loi.
« Merci, monsieur, » dit mon père. Et il s'assoit et il examine de tous ses yeux et avec sa bouche ouverte les noms qu'il y avait sur les boîtes.
« Comment vous appelez-vous, monsieur ? » dit l'homme de loi.
« Tony Weller, » dit mon père.
« Votre paroisse, » dit l'autre.
« La belle sauvage, » dit mon père, car il s'arrêtait à cet hôtel-là quand il conduisait et il ne connaissait rien aux paroisses.
« Et comment s'appelle la dame ? » dit l'homme de loi.
« Voilà mon père qui n'y est plus du tout.
« Diable m'emporte si j'en sais rien, » qu'il dit.
« Vous n'en savez rien ? » dit l'autre.
« Pas plus que vous, » dit mon père. « Pourrais-je pas ajouter le nom plus tard ? » dit-il.
« Impossible, » dit l'autre.
« Très bien, » dit mon père, après avoir réfléchi un instant. « Mettez Madame Clerc. »«
Clerc quoi ? » dit l'homme de loi en trempant sa plume dans l'encrier.
« Suzanne Clerc, à l'enseigne du marquis de Granby, Dorking, » dit mon père. « Je crois bien qu'elle me prendra si je la demande. Je n'y en ai jamais touché un mot, mais elle me prendra, je le sais. » Comme ça, le permis fut enregistré. Et bien sûr qu'elle l'a pris. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'elle le tient encore au jour d'aujourd'hui. Et moi, je n'ai pas seulement vu la couleur des 400 guinées.
Pas de chance.
Je vous demande excuse, monsieur, ajouta Sam à la fin de son récit. Mais quand je commence sur cette doléance-là, je ne peux pas plus m'arrêter qu'une brouette neuve qui a une roue bien graissée.
Ayant tout dit et ayant attendu un instant pour voir si l'on n'avait pas besoin de lui, il sortit de la chambre.
9h30, c'est l'heure. En route, dit alors le gentleman que nous pouvons nous dispenser d'introduire comme étant Monsieur Jingle.
L'heure de quoi ? Demanda la tante demoiselle avec coquetterie.
Du permis, ange chéri. Après, il faudra avertir à l'église. « Demain matin, vous serez à moi, » répondit Monsieur Jingle en serrant la main de la tante demoiselle.
« Le permis !»
soupira Rachel en rougissant.
« Le permis !» répéta Monsieur Jingle.
« au galop, je cours le chercher, au galop et flonflon, je reviens près de vous. »«
Comment vous allez vite ?» dit Rachel.
« Vite ?» Vous verrez comme iront les heures, jours, semaines, mois, années, quand nous serons unis. Vite, tonnerre, éclair, locomotive, force de 1000 chevaux, rien n'ira si vite.
Ne pourrions-nous pas être mariés avant demain matin ?
Demanda Rachel. Impossible, ne se peut pas. Il faut avertir l'église, laisser le permis aujourd'hui, cérémonie demain.
J'ai une si grande frayeur que mon frère ne nous découvre.
Nous découvre ? Folie. Trop secoué par sa culbute. D'ailleurs, extrême précaution. Quitter la chaise de poste, marcher, pris une voiture, venus ici, la dernière place où il nous cherchera.
Hé hé, fameuse idée. Ne soyez pas longtemps,
dit la tante demoiselle avec affection, lorsqu'elle fit Monsieur Jingle enfoncer son chapeau râpé sur sa tête.
« Longtemps loin de vous, beauté cruelle !» Et M. Jingle s'avança d'un air enjoué vers Rachel, imprima un chaste baiser sur ses lèvres et sortit en dansant de la chambre.
« Cher amant !» dit la demoiselle tandis qu'il fermait la porte.
« Drôle de vieille folle !» pensa Jingle en arpentant les corridors. Il est pénible de s'apesantir sur la perfidie de notre espèce, et nous ne suivrons pas le fil des méditations de M. Jingle pendant son trajet au Doctor's Commons. Il suffira de dire qu'il échappa aux embûches des gens en tablier blanc qui gardent la porte de cette région enchantée et qu'il atteignit en sûreté le bureau du vicaire général. Là, il se procura une gracieuse épître de l'archevêque de Canterbury. À ses amis et féaux, Alfred Jingle et Rachel Wardle saluent. Il déposa soigneusement dans sa poche le document mystique et retourna au Boroth en triomphe. Il était encore en chemin lorsque deux gentlemen puissants et un gentleman maigre entrèrent dans la cour du Blanc Cerf et cherchèrent des yeux quelques personnes à laquelle ils pussent adresser un certain nombre de questions. Monsieur Samuel Weller, décrotteur attitré du Blanc Cerf, était en ce moment occupé à brunir une paire de bottes. Ce fut vers lui que se dirigea le gentleman maigre. « Mon ami, dit-il, il paraît que celui-là aime les consultations gratuites. Autrement, il ne serait pas si amoureux de moi du premier coup, pensa le sagace garçon. Mais il se contenta de dire « Eh bien, monsieur ?»« Mon ami, répéta le maigre gentleman avec un « conciliateur, « avez-vous beaucoup de voyageurs en ce moment ?»« Hein ? Bien occupé, n'est-ce pas ?» Sam examina l'interrogateur. C'était un petit homme à l'air affairé, au visage brun et anguleux, dont les deux petits yeux toujours clignotants et scintillants de chaque côté d'un nez mince et inquisitif semblaient faire une perpétuelle partie de cache-cache au moyen de cet organe. Son habit noir faisait ressortir la blancheur de sa chemise et de son étroite cravate. Sur son pantalon noir se détachait une chaîne avec des breloques d'or et ses bottes étaient aussi luisantes que ses yeux. Il tenait à la main ses gants de chevreau noir et, en parlant, il fourrait ses poignets sous les pans de son habit, de l'air d'un homme qui est habitué à poser des questions légales.
« Bien occupé, hein ?» dit le petit homme.
« Pas mal comme ça, monsieur, répliqua Sam. Nous ne ferons pas banqueroute, ni fortune non plus. Nous mangeons notre bouillon bouilli sans capre et nous nous battons l'œil du réfort quand nous pouvons attraper du bœuf. »
« Ah ! Dit le petit homme, vous êtes un farceur, n'est-ce pas ?»«
Mon frère aîné était affligé de cette maladie-là, répondit Sam. Nous couchions ensemble et ça s'attrape peut-être. »
« Oh, la drôle de vieille maison que voilà !» reprit le petit homme en regardant autour de lui.
« Fallait faire prévenir de votre arrivée, on lui aurait fait des réparations !» rétorqua le décrotteur imperturbable. Son interlocuteur parut un peu déconcerté de ses rébuffades successives. Une courte consultation eut lieu entre lui et les deux gros gentlemen. Ensuite, il prit une prise de tabac dans une étroite tabatière d'argent et il paraissait se disposer à renouveler la conversation quand l'un de ses compagnons, qui, outre une contenance bienveillante, était porteur d'une paire de lunettes et d'une paire de guêtres noires, s'avança et dit en montrant l'autre gros gentleman.
« Le fait est que mon ami vous donnera une demi-guinée si vous voulez répondre à une ou deux. »«
Eh, mon cher monsieur !» interrompit le petit homme. « Permettez, je vous prie, mon cher monsieur. Le premier principe à observer dans des cas semblables est celui-ci. Si vous mettez la chose entre les mains d'un homme d'affaires, vous ne devez plus vous en mêler aucunement. Vous devez reposer en lui une entière confiance. Réellement, monsieur... »
Il se tourna vers l'autre gros gentleman en lui disant « J'ai oublié le nom de votre ami. »
« Pickwick, » répondit monsieur Wardle, car c'était un joyeux personnage lui-même.
« Ah, Pickwick ! Réellement, monsieur Pickwick, mon cher monsieur, excusez-moi. je serai heureux de recevoir vos avis en particulier comme amicus courrier. Mais vous devez voir l'inconvenance de votre intervention en ce moment, surtout par un argument ad captandum, tel que l'offre d'une demi-guinée. Réellement, mon cher monsieur, réellement !» Et le petit homme prit un air profond et une prise de tabac argumentative. « Mon seul désir, monsieur, répondit monsieur Pickwick, était d'amener à fin, aussi vite que possible, cette désagréable affaire. » « très bien, dit le petit homme. « C'est pourquoi, continua M. Pickwick, j'ai fait usage de l'argument que mon expérience des hommes m'a fait reconnaître comme le meilleur dans tous les cas. « Oui, oui, dit le petit homme, très bon, c'est vrai. Mais vous auriez dû me suggérer cela à moi. Vous savez, j'en suis sûr, quelle confiance sans borne on doit placer dans son homme d'affaires. S'il était besoin d'une autorité à ce sujet, permettez-moi, mon cher monsieur, de vous référer à un cas bien connu dans Barnwell. Ne vous alambiquez pas de George Barnevelt, interrompit Sam, qui était resté fort étonné de ce dialogue. Tout le monde connaît son histoire, et, voyez-vous, j'ai toujours imaginé que la jeune femme méritait beaucoup mieux que lui d'être pendue. Mais c'est égal, ça n'a rien à voir ici. Vous voulez que j'accepte une demi-guinée? Très bien, ça me va. Je ne puis pas parler mieux que ça. Pas vrai, monsieur ? Monsieur Pickwick sourit. Alors il ne s'agit plus que de savoir ce que diable vous me voulez, comme disent autres quand il vit le revenant. Nous voulons savoir, dit monsieur Wardle. Eh, mon cher monsieur, interrompit le petit homme à l'air affairé. Monsieur Wardle leva les épaules et se tut. Nous voulons savoir, reprit solennellement le petit homme. « Et nous vous adressons cette question pour ne pas éveiller d'inutiles appréhensions dans l'auberge. Nous voulons savoir ce qui s'y trouve actuellement. »« Qu'est-ce qu'il y a dans la maison ?»« Il y a une paire de bottes hongroises au numéro 13, » répondit Sam, dans l'esprit duquel les logeurs étaient représentés par la partie de leur costume qui se trouvait sous sa direction immédiate. « Il y a une jambe de bois au numéro 6. » Deux paires de demi-bottes dans la salle du commerce. Il y a ces bottes à revers ici, au rez-de-chaussée, et cinq autres paires dans le café. Pas davantage, dit le petit homme. Attendez un brin, reprit Sam, en cherchant à se rappeler. Oui, il y a une paire de bottes à la Wellington, pas mal usées, et des souliers de dame au numéro 5. Quelle sorte de souliers ? Demanda avec empressement M. Wardle, qui, ainsi que M. Pickwick, s'était perdu dans ce singulier catalogue de chalands. Souliers de province. Y a-t-il le nom du cordonnier ?
Brown.
D'où cela ?
Muggleton.
Ce sont eux, s'écria Wardle. Par le ciel, nous les avons trouvés.
Chut, dit Sam, les Wellington sont allés au Doctor's Commons.
« Bah ! » fit le petit homme.
« Oui, pour un permis. »«
Nous arrivons à temps, » s'écria Wardle. « Montrez-nous la chambre, il n'y a pas un moment à perdre. »«
Je vous en prie, mon cher monsieur, je vous en prie, » dit le petit homme. « De la prudence, de la prudence !»
En parlant ainsi, il tira de sa poche une bourse de soie rouge, dont il sortit un souverain en regardant fixement Sam. Celui-ci sourit d'une manière expressive.
« Montrez-nous la chambre tout d'un coup sans nous annoncer, » dit le petit homme, « et il est à vous. »
Sam jeta la botte à revers dans un coin et conduisit nos gens à travers un corridor sombre et un large escalier. Arrivé dans un second corridor, il fit halte et tendit la main.
« Le voilà, » dit tout bas l'avoué en déposant le souverain dans la main de leur guide.
Sam fit encore quelques pas et s'arrêta devant une porte.
« C'est ici ?» demanda le petit homme.
Sam fit signe que oui.
Le vieux Wardle ouvrit la porte et tous les trois pénétrèrent dans la chambre, juste au moment où M. Jingle, qui venait de rentrer, montrait le permis à la tante demoiselle. Rachel jeta un grand cri et, se renversant sur une chaise, se couvrit le visage avec les mains.
« M.
M. Jingle chiffonna le permis et le fourra dans sa poche. Les visiteurs intempestifs s'avancèrent au milieu de la chambre.
« Vous êtes un joli coquin !» s'écria le vieux Wardle, haletant de colère. « Vous êtes !»«
Mon cher monsieur, mon cher monsieur !» interrompit le petit homme en posant son chapeau sur la table.
« Je vous en prie, faites attention ! Scandalum magnatum ! Diffamation ! Action pour dommage ! Calmez-vous, mon cher monsieur, je vous en prie !»«
Comment osez-vous enlever ma sœur de ma maison ?» reprit M. Wardle.
Oui, très bien, dit le petit gentleman. Vous pouvez lui demander cela. Comment osez-vous enlever sa sœur ? Eh, monsieur !
Qui diable êtes-vous ? S'écria M. Jingle d'un ton si violent que le petit homme en recula involontairement un pas ou deux.
Qui il est ? Coquin, c'est mon avoué, M. Perker. Perker, je veux poursuivre ce gueux-là. Je veux le faire empoigner. Je veux, Dieu me damne, je veux le ruiner.
Et vous, continua M. Wardle en se tournant brusquement vers sa sœur,
vous, Rachel, à votre âge, quand vous devriez connaître le monde, à quoi pensez-vous de vous enfuir avec un vagabond, de déshonorer votre famille, de vous rendre vous-même misérable? Mettez votre chapeau et venez avec moi. Faites venir une voiture et apportez la note de cette dame. Entendez-vous? Entendez-vous?
« Voilà, monsieur, » répliqua Sam en répondant au violent coup de sonnette de M. Wardle avec une sévérité merveilleuse pour quiconque ne savait pas que son œil avait été appliqué au trou de la serrure pendant toute l'entrevue.
« Mettez votre chapeau, » reprit Wardle.
« N'en faites rien, » s'écria Jingle. « Quittez cette chambre, monsieur. Pas d'affaires ici. Dame libre et maîtresse de ses actions. Plus de 21 ans. »
« Plus de 21 ans !» répéta M. Wardle avec mépris. « Plus de 41 ans !»«
Ce n'est pas vrai !»
s'écria la tante demoiselle, son indignation l'emportant sur son désir de se trouver mal.
« C'est vrai !» répliqua M. Wardle. « Vous avez 50 ans comme un jour !»
La tante demoiselle poussa un cri aigre et perdit connaissance. M. Pickwick, avec son aménité accoutumée, appela l'hôtesse et lui demanda un verre d'eau.
« Un verre d'eau ? » repartit le colérique vieillard. « Apportez-en un baquet et jetez-le sur elle. Cela lui fera du bien et elle le mérite richement. »«
Fille brute que vous êtes !» s'écria la compatissante hôtesse.
Puis, avec diverses exclamations de
« Pauvre chère dame ! Allons, allons, pauvre chérie ! « Buvez un peu de ça, ça vous fera du bien. Ne vous laissez pas abattre comme ça, pauvre amour !»
etc., etc. L'hôtesse, assistée par une servante, commença à humecter le front, à frapper dans les mains, à chatouiller le nez, à délacer le corset de la tante demoiselle et à lui administrer enfin tous les calmants appliqués ordinairement par les sensibles matrones aux dames qui s'efforcent de se donner des attaques de nerfs.
« La voiture est prête, monsieur, » dit Sam en paraissant à la porte.
« Allons, venez, » reprit M. Wardle, « je vais la porter dans la voiture. » À cette proposition, les attaques de nerfs recommencèrent avec une nouvelle fureur. L'hôtesse était sur le point de protester violemment contre ce procédé et avait déjà demandé avec indignation si M. Wardle se croyait seigneur de la création lorsque M. Jingle s'interposa.
« Garçon, dit-il, amenez-moi un constable. »«
Attendez, attendez, » dit le petit Perker. « Considérez, monsieur, considérez. »
« Je ne veux rien considérer, » répliqua Jingle. « Elle est sa maîtresse. Voyons qui osera l'emmener sans son consentement. »«
Je ne veux pas être emmenée, » murmura la dame évanouie. « Je n'y consens pas. »
Ici, il y eut une rechute effrayante.
« Mon cher monsieur, » dit le petit avoué, en prenant à part M. Wardle et M. Pickwick,
« mon cher monsieur, nous sommes dans une situation bien embarrassante. C'est un cas désolant. Je n'en ai jamais connu de plus désolant, mais réellement, mon cher monsieur, nous n'avons aucun pouvoir pour contrôler les actions de cette dame. Je vous ai prévenu avant de venir, mon cher monsieur, qu'il n'y avait pas d'autre remède qu'un accommodement. »
« Quelle espèce d'accommodement voudriez-vous faire ? » demanda M. Pickwick.
« Voyez-vous, mon cher monsieur, votre ami est dans une position très déplaisante, excessivement déplaisante. Il faut qu'il consente à subir quelques pertes pécuniaires.
Je dépenserai tout ce qu'il faudra plutôt que de supporter ce déshonneur, plutôt que de souffrir, toute folle qu'elle est, qu'elle se rende misérable pour sa vie entière. »
« Je suppose que cela pourra s'arranger, » dit le petit homme affairé. « Monsieur Jingle, voulez-vous venir avec nous pour un instant dans la chambre à côté ?» Monsieur Jingle y consentit et le quatuor passa dans une pièce voisine. « Maintenant, monsieur, » dit le petit homme en fermant soigneusement la porte, « n'y a-t-il aucun moyen d'accommoder cette affaire ? Venez par ici, monsieur, dans cette embrasure de croisée où nous serons en tête à tête. »
« Là, monsieur, là.
Asseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Maintenant, mon cher monsieur, entre vous et moi, nous savons très bien, mon cher monsieur, que vous avez enlevé cette dame pour l'amour de son argent. Ne froncez pas le sourcil, monsieur, c'est inutile. Je vous dis, entre vous et moi, que nous savons cela. Nous sommes tous les deux des hommes du monde, et nous savons très bien que nos amis ici n'en sont pas. N'est-ce pas, monsieur ?»
Le visage de M. Jingle s'éclaircit graduellement pendant ce discours, et quelque chose qui ressemblait à un clignement d'œil trembla pendant un instant dans sa paupière gauche.
« Très bien, très bien !» poursuivit M. Perker, observant l'impression qu'il avait faite. « Maintenant, le fait est que la dame n'a rien, ou peu de choses, jusqu'à la mort de sa mère. Une personne bien constituée, mon cher monsieur. »«
Vieille !»
dit M. Jingle laconiquement, mais avec énergie.
Oui, c'est vrai, reprit l'avoué avec une légère toux.
Vous avez raison, mon cher monsieur, elle est assez vieille. Mais elle vient d'une vieille famille, mon cher monsieur, vieille dans toutes les acceptions du mot. Le fondateur de cette famille arriva dans le comté de Kent lors de l'invasion de Jules César, et depuis ce temps-là, il n'y a qu'un seul de ses membres qui n'ait pas vécu jusqu'à 85 ans. Encore a-t-il été décapité par ordre d'un des Henri. La vieille dame n'a pas 73 ans, mon cher monsieur. » Le petit homme s'arrêta et prit une prise de tabac.
« Eh bien, » fit Monsieur Jingle.
« Eh bien, mon cher monsieur, vous ne prenez pas de tabac ? Vous avez raison, c'est une habitude coûteuse. Eh bien, mon cher monsieur, vous êtes un joli garçon, un homme du monde, capable de pousser votre fortune, si vous aviez un capital, hein ?»«
Eh bien ?» répéta M. Jingle.
« Vous ne me comprenez pas ?»«
Pas tout à fait. »«
Ne pensez-vous pas ?»« Je viens au fait, mon cher monsieur. Ne pensez-vous pas que 50 guinées et la liberté seraient plus agréables que Miss Wardle et des espérances ?»«
Impossible !» dit M. Jingle en se levant. « Pas assez de moitié. »«
Non, non, mon cher monsieur !» reprit le petit avoué en l'arrêtant par un bouton. « Bonne somme ronde. Un homme comme vous pourrait la tripler en un rien de temps. On peut faire bien des choses avec 50 guinées, mon cher monsieur. »«
Bien plus avec 150 !» répliqua Jingle froidement.
« Allons, mon cher monsieur, ne perdons pas notre temps à couper un cheveu en quatre. Disons 80. »«
Impossible. »«
Restez, mon cher monsieur, dites-moi ce que vous voulez. »«
Affaire coûteuse, déboursée, chevaux de poste, 9 guinées. Licence, 3 guinées. 12 guinées. Compensation, 100 guinées. 112. Perte d'honneur et perte de la dame. »
« Allons, mon cher monsieur, allons !» interrompit l'homme d'affaires d'un air malin. « Ne parlons pas des deux derniers articles. Cela fait 112 guinées. Mettons 100, alors. »«
120. »«
Allons, allons, je vais vous écrire un mandat, » reprit le petit homme en s'asseyant près d'une table et commençant à écrire. « Je le ferai payable pour après-demain et nous pouvons emmener la dame d'ici là, » ajouta-t-il en interrogeant M. Wardle du regard. Celui-ci fit un sombre signe d'assentiment.
« 100 !» dit le petit homme.
« Et 20 !» ajouta Jingle.
« Mon cher monsieur !» reprit l'avoué.
« Donnez-les-lui !» interrompit M. Wardle. « Et qu'il s'en aille au diable avec !»
Le mandat fut donc écrit par le petit gentleman et empoché par M. Jingle.
« Maintenant, quittez cette maison sur le champ !» dit M. Wardle en se levant.
« Mon cher monsieur !» observa l'homme d'affaires.
« Et sachez, continua M. Wardle, sans s'occuper de l'interrupteur, sachez que rien au monde, pas même l'honneur de ma famille, n'aurait pu me faire consentir à cet arrangement si je n'étais pas convaincu que vous deviendrez la proie du diable d'autant plus vite que vous aurez plus d'argent.
« Mon cher monsieur !» représenta de nouveau le petit homme.
« Tenez-vous tranquille, père cœur !» lui répondit son colère client.
« Quittez cette chambre, monsieur !»
« En route sur le champ !» répliqua l'impassible Jingle.
« Adieu, Pickwick !»
Si quelques spectateurs désintéressés avaient pu contempler, pendant la fin de cette conversation, la contenance de l'homme illustre dont le nom décore notre titre, il aurait été étonné que le feu de l'indignation qui jaillissait de ses yeux ne fît pas fondre les verres de ses lunettes. Ses narines s'enflèrent, ses poings se fermèrent involontairement quand il s'entendit nommer familièrement par le misérable. Mais il se contint, il ne le pulvérisa point.
« Tenez !» continua le scélérat endurci en jetant la licence aux pieds de M. Pickwick.
« Changez les noms, emmenez la dame !» fera l'affaire de Tuppy.
M. Pickwick était un philosophe. Mais, après tout, les philosophes ne sont que des hommes revêtus d'une armure de sagesse. Le trait mordant pénétra à travers le harnais philosophique de notre héros et déchira profondément son cœur. Dans un accès de rage, il lança au hasard l'encrier qui avait servi à M. Perker et se précipita dans la même direction. Mais son adversaire était disparu et il se trouva arrêté dans les bras de Sam.
« Ohé !» dit cet excentrique fonctionnaire. « Le mobilier n'est pas cher dans votre pays, vieux gentleman. Voilà une encre qui écrit toute seule, hein ? Elle vient d'écrire votre nom sur ce mur. Laissez donc, monsieur. À quoi bon courir après un homme qui est à présent à l'autre bout du Borough ?»
L'esprit de M. Pickwick, comme celui de tous les hommes vraiment grands, était ouvert à la persuasion, et comme il raisonnait puissamment et rapidement, un seul instant de réflexion suffit pour le convaincre de l'inutilité de son courroux. Il s'apaisa aussi vite qu'il s'était enlevé, respira fortement et jeta un regard bénin sur ses amis. Rapporterons-nous les lamentations de Miss Wardle quand elle apprit de quelle manière son infidèle amant l'abandonnait ? Imprimerons-nous les détails de cette scène déchirante, si admirablement décrite par M. Pickwick ? Son livre de notes est ouvert devant nous. Une légère moisissure indique encore combien de larmes lui arracha l'humanité sympathisante. Un seul mot, et ses notes seront entre les mains de l'imprimeur. Mais non, nous résisterons à cette pensée. Nous ne désolerons pas le cœur du public par la peinture de ses affreuses souffrances. Le lendemain, la lourde voiture de Muggleton ramena, lentement et tristement, les deux amis avec la dame délaissée. Les ombres de la nuit étaient tombées depuis bien longtemps sur toute la nature quand ils arrivèrent à la porte de Manoir Ferme.